Radio Autre Culture, bonjour, émission également diffusée sur audiopeople.fr. Deuxième partie de l'émission consacrée à Bielka, nous en étions à la musique russe et tzigane. Et là, pendant le court intermède, le temps que Constantin fume son cigare, nous avons âprement discuté sur le balalaïka où vous parliez de première, deuxième, troisième génération. Donc moi, j'aimerais bien que vous nous racontiez de nouveau ce que vous m'avez dit tout à l'heure sur le balalaïka, parce que vous m'en parlez de trois, et visiblement avec un amour immodéré pour le premier. On me raconte cette histoire, Bielka.
Mais c'est Constantin qui l'a très bien raconté.
Non, mais ce que je disais, c'est que Marc Dolouchek, qui a toujours rêvé d'ailleurs d'avoir un établissement, au départ, je crois qu'il voulait l'avoir dans la rue des écoles. Je ne sais pas pourquoi. Il me parlait de ça dans les années 70, avant d'ouvrir la balalaïka, la première. Bon, bah, c'est tout simplement, c'est qu'à un moment, il a eu l'opportunité d'ouvrir un établissement qui était rue du Chemin Vert, avec l'angle de la rue de la Melot, un endroit qui ne payait pas de mine, mais dans lequel, quand on entrait, on entendait vraiment la quintessence de ce que le Paris russe pouvait donner, et de cette génération-là, de ce que le Paris russe pouvait donner à ce moment-là. Alors, il y avait Marc Dolouchek, il y avait Bielka, il y avait Andrei Shestapalov, il y avait Igor Levkovets, il y avait Laurent Chkaïdze, et il y avait effectivement, comme disait Bielka, deux passages, on passait, on amenait les guitares, on l'avait déjà dit. Et ça, c'était fait sans compromis, en quelque sorte. Surtout au niveau du répertoire, et d'autre part, le public, il écoutait. On ne parlait pas. Ça, c'était merveilleux. La deuxième balalaïque était dans la rue Richelieu. Le cadre, il était plus chaleureux, plus sympathique. Le quartier aussi, c'était un peu plus, je dirais pas commercial, mais enfin, il y avait quand même déjà un compromis par rapport au public. On écoutait, mais pas, ce n'était plus des mini-concerts, comme c'était la première balalaïka. Et puis la troisième, c'était dans la rue de la Montagne Sainte-Geneviève, une cave superbe, voûtée, extraordinaire. Mais c'était l'époque qui n'était plus la même. Les possibilités d'entretenir un établissement comme ça nécessitaient un public plus important. Et je crois que Marc a eu pas mal de problèmes pour tenir le coup. Et à ce moment-là, il y avait déjà le mur de Berlin qui était tombé, ce qui fait que lui aussi, il a engagé pas mal de personnes qui venaient de Russie. Ce qui était peut-être quelque chose de nouveau pour le public occidental ici, quelque chose d'impressionnant. Mais c'est ça aussi qui a tué le petit Paris russe. Avec sa naïveté, avec sa spontanéité et avec son ignorance.
Avec l'arrivée de ces nouveaux artistes russes, est-ce que l'esprit du balalaïka, la musique était toujours la même ou alors elle avait perdu cette chaleur qu'elle avait dans le premier ?
Elle en a trouvé une autre, certainement, mais effectivement, elle a perdu la chaleur qu'il y avait dans le premier où nous chantions une Russie imaginaire. Parce que la plupart d'entre nous, on avait grandi dans une atmosphère russe, mais russe d'immigration. Et la Russie qu'on rêvait n'était pas la Russie réelle. Donc il y avait cette dimension de rêve qui a disparu, quoi. Ensuite, quand tous ces musiciens sont arrivés, oui, ils sont arrivés avec un répertoire soviétique. qui n'était plus le même, parce qu'eux-mêmes n'avaient pas envie de chanter tous ces chants traditionnels dont ils avaient des overdoses là-bas, et nous regardaient avec un peu de condescendance, je dirais, quand je commençais à chanter des chansons comme celles qu'il y a dans le CD, là, c'était un petit peu condescendant, quoi. Et puis, petit à petit, les choses ont changé aussi, parce qu'ils ont redécouvert, bien quelques temps après, le charme de cette musique et de ces chants-là, parce qu'eux-mêmes étaient déjà des émigrés aussi.
Vous nous aviez dit, Bielka, que vous aviez été en Russie, que vous aviez collecté des chants dans les villages. Alors, quelle différence y avait-il entre ce qu'on écoutait en ville et ce qu'il y avait dans les villages, et par rapport à ce que vous chantiez, vous, dans vos cafés?
Oui, moi je suis allée, j'ai eu l'occasion de partir avec une ethnomusicologue en Russie en 2001. Donc c'était déjà bien, bien longtemps après le cabaret Balalaïka. Et c'était un vieux rêve pour moi d'aller vraiment à la source, d'aller découvrir ce qu'étaient réellement les chants traditionnels dans le fin fond de la Russie. Et j'ai vraiment découvert ce que c'était, à savoir que les chants rituels russes chantés par des anciennes dans les villages n'avait plus grand-chose à voir. Enfin, je reconnaissais de temps en temps un peu la forme de chant à laquelle j'avais été habituée, mais de très loin, c'était beaucoup plus âpre, beaucoup plus avec des quarts de ton, avec des choses qui, moi, à l'époque, me semblaient fausses et dont j'ai découvert la beauté petit à petit, parce que c'était des chants tissés, alors que ce qu'on avait tissé vocalement, j'entends vocage, des tissages vocaux, quoi. C'est-à-dire que quand il y avait trois femmes, elles chantaient à trois voix, quand il y en avait quatre, elles chantaient à quatre voix, cinq voix, six voix. C'était chaque fois, parfois, des toutes petites différences dans les notes. Tout d'un coup, ça frottait. Enfin, c'était quelque chose que je découvrais et qui était beaucoup plus authentique que les chœurs bien édulcorés dont on recevait les vinyles, Melodia. Voilà.
Cela donne pas plus de profondeur dans le chant? Je pense à ces histoires de violons dans les enregistrements où j'entends les ingénieurs du son qui disent on ne veut pas avoir des violons qui soient exactement les mêmes, avec exactement la même note. Et le fait d'avoir une toute petite différence entre deux violons donne de la profondeur de chant à l'enregistrement. Est-ce que ça ne donne pas cet effet-là justement dans ces chants?
Oui, c'est quelque chose comme ça. Enfin, c'est un petit peu aussi la différence qu'il y a entre le violoniste et le violoneux. C'est-à-dire que chaque façon de jouer a sa qualité et a son authenticité, mais c'est vrai que dans le chant traditionnel, il y a une grandeur que j'ai vraiment découverte vraiment sur le terrain, quoi, dans les villages. Et c'est somptueux.
Est-ce que vous avez découvert des nouvelles chansons traditionnelles en parcourant ces villages?
Oui, tout à fait. C'est un répertoire que je ne connaissais pas. Mais alors, ce qui était étrange, c'est d'ailleurs, pour collecter, bien sûr, on demandait aux anciennes de nous chanter ces chants qu'elles avaient elles-mêmes reçus par tradition orale. Et ce sont des chants, c'est un peu l'équivalent des Gwerts bretonnes. Enfin, c'est des chants qui durent parfois trois quarts d'heure, où tout d'un coup, si la mémoire de l'une faille, l'autre dit « Ah non, là, il faut chanter ça », etc. Enfin, c'est très, très codifié.
Et qu'est-ce qu'elle chante dans les paroles? Qu'est-ce que c'est dans les paroles? Est-ce que ce sont des aventures? Je veux dire, on parle d'aventures de génération, ou ce sont des histoires
C'est très métaphorique. Ce sont des chants, pour la plupart, vraiment initiatiques, je dirais. Donc, c'est-à-dire qui est très symbolique. Tel oiseau symbolise la virginité, tel arbre symbolise la fidélité, etc., etc. Et donc, c'est un peu, c'est presque de la mythologie.
D'accord. Ça n'a rien à voir, oui, effectivement, par rapport à ce que j'avais entendu au niveau de la musique et de la chanson judéo-espagnole, où on retraçait des versets de la Bible.
Oui, voilà. Non, il y a aussi les versets spirituels dans les chansons traditionnelles russes. C'est d'ailleurs un genre qui est redevenu très, très couru maintenant. On chante des versets spirituels qui étaient chanté clandestinement, carrément, pendant l'Union soviétique, ou pas du tout, qu'on a retrouvé, et qui sont très beaux, parce que c'est effectivement la religion, mais vue à travers la naïveté populaire. C'est comme un peu comme ça me rappelle les enluminures médiévales. Enfin, c'est très. Mais c'est très beau, avec des sens très profonds, mais très naïfs.
Alors, on va passer à la musique yiddish, à la chanson yiddish. Par rapport à ce que vous venez de décrire, quelle différence a-t-on dans la chanson yiddish ?
La chanson yiddish, en général, c'est une chanson d'auteur. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas de chant véritablement traditionnel yiddish. Il y a des chants dont on ne connaît plus les auteurs. On ne sait pas du tout qui les a composés, mais enfin, c'est de la chanson d'auteur quand même. C'est des chansons de poètes. C'est, voilà. Et donc, à part quelques chants d'ailleurs communs qui sont passés dans la musique russe, comme Bublitchki, ou des chansons, voilà, des chansons de métier, des choses comme ça. Mais sinon, la chanson yiddish, c'est déjà plus du chant, c'est de la chanson. Je ne parle pas du chant religieux, de la chazanout. Hein. Je parle de la chanson yiddish, quoi.
Il y a des grands auteurs de chansons yiddish que l'on connaît.
Oui, bien sûr, bien sûr. Itzik Manger, Gebirtik, Yablokov, enfin d'autres, voilà.
Est-ce que la chanson yiddish actuellement a toujours des créations?
Oui,
Ou on reste sur un passé.
On reste beaucoup sur un passé, c'est vrai. On reste beaucoup sur un passé. Il y a aussi beaucoup de chansons qui sont répertoriées, mais qui ont été très peu chantées. Parce qu'il y a eu un grand théâtre yiddish en Russie, donc il y a plein de chansons qui sont issues de ce répertoire du théâtre yiddish. Et puis, on a eu la chance à Paris d'avoir quelqu'un comme Grobert, voilà, Jacques Grobert, qui a lui-même composé beaucoup de chansons très, très intéressantes, très, très jolies, et je veux dire, en lien avec la vie actuelle, en yiddish. Ça a été vraiment l'un des... Et malheureusement, il nous a quittés aussi il n'y a pas très longtemps, mais ça a été un compositeur, auteur-interprète de très bonnes chansons yiddish.
Qu'est-ce que ces chansons véhiculent? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier dans les chansons yiddish par rapport aux autres?
La chanson yiddish, il y a beaucoup de chansons de métier, donc hein, les chansons de vendeurs de quatre saisons, de tailleurs, évidemment, de toutes ces professions qui étaient les professions du petit peuple juif, du shtetl, et puis beaucoup de philosophie, bien sûr.
A-t-on eu des créations un peu particulières, justement, après la Shoah, après ces événements épouvantables de la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que le chant yiddish s'est trouvé une espèce de renaissance, mais en reparlant de ces événements?
Non, malheureusement, la Shoah a fait un grand trou noir dans la culture yiddish en général, puisqu'il y a beaucoup de gens qui parlaient cette langue qui ont disparu. Donc, je dirais que le renouveau est revenu très, très longtemps après. Moi-même, j'ai commencé à chanter yiddish après ce qui s'était passé à Carpentras. Un petit peu, voilà, par de devoir de mémoire, de se dire quand même toute cette culture, toute cette poésie fabuleuse, ce patrimoine, il ne faut pas le laisser disparaître, quoi. Mais il a bien failli disparaître, oui.
Vous m'aviez dit tout à l'heure que vous envisagiez de faire un CD sur la chanson yiddish.
Oui, j'aimerais bien, c'est vrai, j'aimerais bien. Mais déjà, bon, cette année étant l'année de la Russie, on me demande de chanter plus particulièrement, bien sûr, des chansons de la tradition juive de Russie. Donc, je vais me pencher sur la question. Et puis, voilà, ça fait très longtemps que j'ai envie quand même de donner mon interprétation. Ce sera bien sûr, à part quelques chansons que j'ai dégoûtées, côté de derrière les fagots, si je puis dire, et puis des chansons surtout que je n'ai jamais entendues ailleurs que dans la bouche de ma mère, le répertoire sera un répertoire qui a déjà été chanté par d'autres, mais peut-être avec une autre couleur, voilà, comme les chants russes.
Autre type de répertoire que vous avez créé et qui m'a semblé passionnant, c'est la chanson de marin. Alors je sais que la chanson de marin revient à la mode justement par ces grandes démonstrations de navires, alors que ce soit à Rouen, à Toulon ou à Brest. Mmh. Et vous avez fait un spectacle de chansons de marin. Alors comment avez-vous pu faire la recherche de ces chansons ?
Il y a énormément, c'était très facile, il y a énormément de chants de marins, de la marine russe, des chants des bords de mer, des chants de femmes de marin, il y a énormément de chansons qui évoquent la mer, et parfois même d'ailleurs la mer, même si c'est la Volga, mais on l'appelle la mer, parce que ce sont des fleuves tellement vastes, donc voilà, et puis c'était une commande, on m'a demandé de venir, la première fois c'était à Brest 96, mm-hmm. mais j'en ai fait bien d'autres après, c'était les festivals de Vieux-Gréement. Et voilà, on m'a demandé si je pouvais faire un répertoire spécifiquement marin pour l'occasion. Donc ça m'a beaucoup plu de réunir tous ces chants.
Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces chansons de marin ? Parce que vous avez dû certainement entendre les chansons de marin françaises ou bretonnes.
Oui, ce sont des chants qui évoquent la mer, ce ne sont pas des chants de chantilly qui servent à donner le rythme. Et encore qu'il y a quand même justement cette rythmique qu'on a quand on est sur un bateau. Il y a beaucoup de points communs, oui, avec les chants de marins, bretons, etc. Dans le côté lancinant, répétitif, qui effectivement donne ce rythme pour avancer, pour vaincre le vent, la vague. Voilà, c'est ce qui m'a...
Le chant qu'on entend, c'est « Batelier de la Volga », c'est un chant de marin ou c'est un chant qui a été créé comme ça ?
Non, c'est un chant de travail, c'est un chant de travail de ceux qui tiraient les barges, qui tiraient les barges le long des rives. Hein. Les Bourlaki, ils étaient sur terre, ils tiraient les bateaux pour aller dans les endroits où les bateaux ne pouvaient pas naviguer. Contre le courant, on les traînait jusqu'à un point donné où ils allaient reprendre l'eau. Quoi.
Alors nous allons parler aussi de ce que vous avez fait, ce que vous avez créé avec votre fille. Vous avez créé des spectacles, est-ce que avec Souliko ?
Oui.
Et l'aventure continue ou...
Oui, oui, tout à fait. Le duo Bielka et Souliko, mère et fille, la tradition qui se perpétue, qui est transmise oralement aussi, tout à fait.
Il y a une différence entre ce que vous faites seule et ce que vous faites avec votre fille ?
Oui, oui, il y a une différence. Mais enfin, à la fois dans nos spectacles, on chante chacune seule. Moi, je chante aussi, bien sûr, quelques chansons seule. Et puis, elle aussi. Ça a ajouté une petite dimension. C'est que donc le papa de Souliko est géorgien. Et donc, nous avons ajouté à notre répertoire des chants géorgiens.
Cela donne quel type de différence au niveau rythmique et autres ?
C'est tout à fait différent. C'est une autre culture, c'est une autre langue. Tout ce que je peux en dire, quoi.
Vous parlez d'une autre langue, c'est un dialecte, un patois.
Ah non, c'est une langue.
Quoi ?
Sacrilège.
Non, mais
non, la culture géorgienne, c'est sa propre langue,
son propre. Vieille civilisation, beaucoup plus vieille que la civilisation russe, avec un chant polyphonique bien des siècles avant Jésus-Christ.
Oui, explique-nous ça, Constantin.
Le pays de la toison d'or, la Géorgie, ça ne peut pas être. Ce sont des langues à part, des alphabets à part, d'une écriture à part. Ce sont des gens qui sont devenus des chrétiens bien avant les Russes, parmi les premiers chrétiens, et je crois même bien avant les Français. Mmh. C'est une très vieille civilisation qui a aussi ces chants qui a créé une mentalité montagnarde bien différente de celle qu'on peut acquérir quand on vit dans les grandes steppes.
Alors cela sous-entend quel type de chants ? Ce sont des chants qui sont très cadencés ou justement très lents ?
Pas forcément.
Quand tu parles de chants polyphoniques, on a toujours l'impression d'entendre nos chants religieux, mais...
Non, ça se rapproche plus, parce que les gens connaissent maintenant, des chants corses. et des chants basques. Absolument. Ouais. Mais je crois que ce que font Bielke et Sulico, c'est déjà un répertoire, je dirais plutôt citadin. C'est-à-dire que ce sont pas exactement les chants qui sont pris dans la montagne et qui sont présentés tels quels, mais ce sont des très belles chansons traditionnelles qu'il faut entendre, mais la langue, c'est complètement différent. C'est-à-dire que encore un géorgien pourrait chanter en russe, parce que ça fait déjà 2 siècles qu'ils font partie de l'Empire. Mais un russe pour chanter en géorgien, bonjour.
C'est une langue comment gutturale,
Oui, c'est assez guttural, oui. C'est très, très spécial, hein. D'ailleurs, c'est un groupe linguistique totalement à part. Et la seule parenté qu'il y a dans le monde, c'est justement avec la langue basque. Et c'est un groupe linguistique à part qui n'est pas indo-européen.
Cela ne vous pose pas de problème au niveau du chant, au niveau de l'interprétation ?
Si, non, mais je veux dire, on fait un petit clin d'œil, hein. Bien sûr, je ne vais pas me mettre à chanter des chants géorgiens, d'autant plus qu'il faut être minimum 3, parce qu'il y a toujours un bourdon qui nous manque cruellement quand on chante un chant avec Sulico. On peut le chanter qu'à 2 voix, ce qui est fort dommage. Ouais. Donc ça limite bien sûr le répertoire, mais voilà, par exemple, on est allé en Géorgie l'été dernier, et là on a chanté avec ses cousins, et là c'était vraiment un pied, comme on dit, quoi, parce qu'on avait vraiment là toutes les voix qu'il fallait. C'était très, très émouvant, en plus, de chanter en Géorgie.
Tu ne peux pas dire que le basque est un dialecte du français.
Un peu du tout, non.
Et ben voilà, c'est la même chose.
Oui, mais il fallait le savoir.
Nous sommes là pour ça.
Viekujivi, viekuchis. On vit un siècle, on apprend pendant un siècle.
Bien, je voulais parler en dernier. J'ai appris que vous donniez des cours de chant. Vous faisiez des stages de chant.
Oui, voilà, des stages d'initiation à la polyphonie. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est un petit peu ouvrir les possibilités aux voix de résonner ensemble. Ce ne sont pas des cours de chant.
En fait, ce sont des. C'est quand même des cours, mais en groupe.
Voilà. Minimum 7-8 personnes, parce que sinon...
Minimum ?
Sinon il n'y a pas assez de...
C'est une chorale,
en fait. Assez de matière.
Ouais.
Oui. Non, c'est pas chorale, hein, c'est vraiment autre chose.
Je la titille, là.
Voilà, la chorale, c'est à partir de partitions, alors que moi, je suis résolument et opiniâtrement tradition orale uniquement. C'est-à-dire que je ne donne aucune partition et je transmets des chants où les gens apportent des chants qu'ils ont envie de travailler et on s'amuse avec ces chants-là. Voilà. À faire résonner les voix ensemble, à trouver des voix, à trouver...
Alors pour ce type de travail, vous vous êtes inspiré, vous avez exploré différentes techniques vocales qui sont la technique traditionnelle russe, également le chant indien et le chant diphonique chinois. Qu'est-ce que vous ont donné les deux dernières méthodes ?
Mongole. Le diphonique mongol.
C'est mongol.
Oui. Ça fait découvrir des façons de faire résonner, de découvrir que le corps est un véritable instrument de musique avec plein de possibilités de résonance différentes. Et puis j'adore le chant sous toutes ses formes, j'adore la musique sous toutes ses formes et d'où qu'elles viennent. Et justement, d'explorer comment c'est ce chant indien, ces voix de femmes aussi qui montent très haut en voix de poitrine, comment est-ce qu'on peut faire ça? Et puis c'est un autre mode musical, c'est une autre... Chaque forme de chant, chaque chant, en fait, englobe toute une philosophie, toute une spiritualité aussi. Et même dans le chant diphonique mongol, on trouve effectivement, enfin, c'est une forme de méditation. Dans tout chant traditionnel, il y a toute une philosophie et toute une spiritualité. Et par le chant, on y a un petit accès. Après, on va plus ou moins loin.
Je ne sais pas si elle va accepter. Je regarde Constantin. Pour nos auditeurs, vous ne voulez pas nous donner un petit exemple
de...
D'un son diphonique mongol, par exemple.
Ouf.
Oh.
Maintenant, un mot de fin, Constantin.
J'en sais rien. Moi, je veux dire que c'est Bielka a très bien dit les dernières phrases qu'elle a dit, qu'elle aime tout genre de musique et que la musique est une philosophie et tout ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ce que je souhaite, c'est que justement pour les gens qui font la musique ou pour les gens qui la écoutent, que ce soit la même chose, qu'ils soient ouverts à écouter des choses qu'ils ne connaissent pas et que quelque part ils y retrouvent un plaisir, pas seulement auditif, mais spirituel, parce que c'est fait pour ça, c'est pas fait pour autre chose. Et comme nous disons en France, la plus belle fille du monde ne peut vous donner que ce qu'elle a.
Bien, merci Constantin. Je voulais juste dire que vous avez un CD qui s'appelle Bielka, les années balalaïka. On le commande sur votre site ?
Oui, on peut le commander sur mon site.
Le site, c'est www.bielka.org.
Excellent témoignage pour une époque malheureusement révolue, mais toujours actuelle.
Merci Bielka. Merci Constantin. À très bientôt vous deux et puis bonne chance pour cette année 2010. Ici, Autre Radio, Autre Culture. Au revoir. Собирайтесь ко гости мои на моё угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлёт мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле да и вечно. Autre radio, autre culture.